Bonjour, ici Martin Gauthier et vous écoutez Medcast. Cet épisode porte sur la prise d'antécédents psychiatriques, l'examen psychiatrique, le questionnaire Fullsteen et les cinq axes diagnostiques en psychiatrie. L'examen psychiatrique doit être intégré à l'entrevue médicale complète. On commence avec l'identification du patient. On explore la situation familiale et sociale du patient. On prend les antécédents personnels, médicaux et psychiatriques, ainsi que les antécédents familiaux, médicaux et psychiatriques. On explore les habitudes de vie, la pharmacologie, les allergies. On explore ensuite la raison de la consultation et on peut effectuer un examen physique ciblé. Dans l'examen psychiatrique, il est particulièrement important de déterminer la fiabilité du patient ou de la source d'information. L'exploration de la raison de consultation doit inclure l'évaluation du début des symptômes, de la progression et de la récurrence des symptômes, ainsi que la présence ou l'absence de plusieurs éléments comme les hallucinations, la psychose, les changements d'humeur, les changements de comportement inhabituels, l'abus de substances, toute maladie organique, l'anxiété, les phobies, les obsessions, les compulsions, les troubles alimentaires, les troubles de mémoire ou les troubles de concentration. On se doit aussi d'explorer le sommeil, le niveau d'énergie, la libido et la présence ou l'absence de crises du genre épileptique. On peut essayer de déceler un événement déclencheur comme un stress ou une perte, mais il faut porter une attention particulière aux changements de la pharmacothérapie, comme par exemple un manque d'adhérence. Il est essentiel de faire une évaluation des idées et des intentions suicidaires et de déterminer l'impact fonctionnel des symptômes. On suit ensuite avec une prise des antécédents personnels. Les antécédents personnels peuvent servir de ligne de base. En plus d'un historique médical et psychiatrique, on note en détail les tentatives de suicide et on évalue la pharmacologie et l'abus de substances. Il est important de dresser une description historique du patient. Situation familiale et relations en ce moment, événements majeurs comme les décès ou les divorces ou tout autre, l'abus de substances prénatales, le tempérament du patient en enfance, le rendement académique, la socialisation à l'école, les relations amicales et intimes, les expérimentations avec l'alcool et ou la drogue, le niveau présent d'éducation, le statut social, l'histoire sexuelle y inclut les traumatismes, les convictions religieuses et le réseau de support social du patient. Les antécédents familiaux, quant à eux, doivent explorer les maladies psychiatriques et leurs traitements, ainsi que les consultations en santé mentale, les tentatives de suicide et l'abus de substances. Chez chaque patient, il est important de faire une évaluation du risque de suicide. Il faut discriminer entre un patient qui ne ressent aucune raison de continuer à vivre et le patient qui a un plan d'établi pour son suicide. Il faut déterminer quand et avec quelle intensité le patient pense au suicide, ainsi que la motivation du patient. Il faut aussi déterminer le réseau de support du patient, l'accès aux moyens et le niveau de préparation du patient. L'acronyme SAD PERSONS peut servir à mémoriser les facteurs de risque pour le suicide. S pour sexe mâle, A pour âge, D pour dépression, P pour tentative de suicide dans le passé, E pour éthylisme ou drogue, R pour rationalité altérée, S pour suicide dans la famille, O pour organisation du plan, N pour néant social et S pour santé en péril. Il ne faut pas hésiter d'en parler clairement et ouvertement avec le patient. Une intervention de base requiert la mise en place d'un contrat de non-passage à l'acte avec une mobilisation des ressources sociales ou des services d'urgence. L'examen de l'état mental. L'examen de l'état mental commence au début de l'entrevue et sert à dresser un portrait précis de la santé mentale du patient. Les facteurs biologiques et sociaux qui peuvent influencer l'état mental sont déjà déterminés dans la raison de la consultation et la prise d'antécédents. Pour l'examen de l'état mental, on note l'apparence du patient. On porte une attention particulière à la correspondance de l'âge et de l'image du patient, son hygiène, son choix de vêtements et le langage corporel. On a aussi l'attitude face à soi-même, comme par exemple l'enthousiasme, le pessimisme ou avoir l'air préoccupé. On a aussi l'attitude face à l'examinateur, comme par exemple être confiant, franc, hostile, réservé, évasif ou désinhibé. Au niveau de l'apparence, on note aussi l'activité motrice, comme des mouvements involontaires, les manifestations physiques de l'état mental ou la bradykinésie. La seconde partie de l'évaluation de l'état mental est l'évaluation du langage. On note au niveau de la forme, l'intonation, la vitesse, l'émotion et la fluidité. Et au niveau du contenu, on note la nomination, la cohésion et la quantité du contenu. L'évaluation du langage est suivie par l'évaluation de l'affect et l'humeur. La correspondance de l'affect, ce serait les signes. C'est ce que l'examinateur observe. Quelques exemples sont l'eutimie, l'euphorie, la dysphorie, l'affect plat, l'affect émoussé ou l'affect labile. On note aussi si l'affect est approprié au sujet discuté. Avec l'affect, on note aussi l'humeur. Puis l'humeur, c'est comme un symptôme, c'est ce que le patient rapporte. On peut noter l'investissement du patient dans ses activités. Et si ce n'est pas déjà fait, on peut évaluer l'idéation du suicide. Après l'affect et l'humeur, on évalue le cours et le contenu de la pensée du patient. Pour le cours, on note le rythme, la suite des idées ou la cohérence et la forme. On peut remarquer si la pensée est concrète, abstraite, si c'est hermétique ou s'il manque de suite dans les idées. On cherche aussi à évaluer la capacité du patient à atteindre un objectif en lui demandant des questions. On cherche pour des pensées tangentielles, des pensées qui tournent autour du pot, une perte progressive des associations, la pensée coq à l'âne ou la salade de mots. Pour le contenu de la pensée, on cherche des signes d'anxiété, comme des préoccupations, des phobies ou des obsessions. On peut utiliser la triade de Beck, worthless, helpless, hopeless, pour déterminer s'il y a lieu à l'évaluation pour la dépression. On peut chercher des signes de psychose ou de pensée dangereuse. On a aussi la présence d'hallucinations ou de divergences avec la réalité. Après l'évaluation de la pensée, on teste les fonctions cognitives. On note l'état de conscience, soit hypervigilant, clair, somnolent, obnubilé ou en stupeur. On évalue l'attention en demandant au patient de répéter une courte séquence de chiffres. On évalue la concentration en lui demandant de compter par bond 7 en descendant de 100. On explore la mémoire à court terme et à long terme du patient. On vérifie si le patient est capable de s'orienter dans le temps et l'espace. Et on évalue la capacité d'abstraction du patient, comme en lui demandant d'interpréter un proverbe ou de trouver des similarités entre deux objets. Finalement, on évalue la capacité d'introspection et d'autocritique, demandant au patient d'expliquer sa situation ou de résumer et expliquer ses actions. On note si l'explication est émotionnelle, intellectuelle, si l'explication projette le blâme sur autrui ou si le patient fait preuve de déni. Si le patient semble désorienté ou souffre d'une atteinte cognitive, on peut faire le test Feldstein. Le Feldstein est une série de questions qui servent à dépister les démences. En premier lieu, on évalue l'orientation du patient. On lui demande l'année, la saison, la date complète, et on peut lui demander son emplacement géographique, dire le pays, la province, la ville, l'édifice, même la pièce. Ensuite, on évalue la capacité du patient d'encoder l'information en nommant trois objets communs. On demande au patient de répéter les trois noms immédiatement et on avertit le patient qu'on va lui demander de répéter les objets dans une minute. On évalue la capacité d'attention et de concentration. On demande au patient de compter en bond de 7 en descendant de 100, ou on peut lui demander de déplier le mot monde de reculons, ou on lui demande de répéter les mois de l'année de reculons. On peut évaluer la mémoire à court terme en demandant au patient de renommer les trois objets qu'on lui a nommés il y a quelques minutes. On évalue ensuite le langage sur plusieurs aspects. On désigne deux objets du doigt et on demande au patient de les nommer. On demande au patient de répéter une phrase simple, ni ci, ni ça, ni rien. On demande au patient de respecter une consigne à trois étapes comme prends cette feuille dans ta main droite, plie-la en deux et redonne-la-moi. On écrit une phrase ferme les yeux sur une feuille de papier. On donne la feuille au patient et on lui demande de lire et d'effectuer les instructions. On demande au patient d'écrire une phrase sur une feuille. On n'évalue pas de quoi la phrase parle, mais ça doit être une phrase bien structurée avec un sujet et un verbe. La dernière étape de l'examen Fullstein est de demander au patient de reproduire un diagramme de deux pentagones qui s'entrecroisent. On lui fournit un exemplaire du diagramme à reproduire. En résumé, l'examen mental, on évalue l'apparence, le comportement, l'attitude envers soi et envers l'examinateur, le contenu et la forme du langage, l'humeur, l'affect, le cours de la pensée, le contenu de la pensée, particulièrement on cherche des pensées de suicide, l'anxiété, des obsessions, des phobies, la dépression, les psychoses, l'hallucination ou toute divergence de la réalité. On évalue la cognition, le niveau de conscience, l'orientation spatiale et temporelle, l'attention et la concentration, la mémoire, la capacité d'abstraction et finalement le jugement et l'autocritique. Finalement, les cinq axes du diagnostic multiaxial sont numéro 1, le diagnostic psychiatrique principal. 2, les troubles de la personnalité ou le retard mental qui peuvent affecter le diagnostic. 3, les affections médicales qui peuvent influencer le diagnostic, le traitement ou le pronostic. 4, les problèmes psychosociaux et environnementaux qui influencent le diagnostic, le traitement ou le pronostic. Et 5, on évalue à l'aide des quatre autres axes le fonctionnement global du patient. Cet épisode de Medcast a discuté la prise d'antécédents et l'examen psychiatrique, le questionnaire Fullstein et les cinq axes diagnostiques en psychiatrie. Cet épisode est tiré du Bates, Toronto Notes, les notes de cours du Dr. McCordick et le Essentials of Clinical Examination Handbook, enregistré en février 2008.